Le sol de la prison des Baumettes est tapissé de couvertures pour masquer le bruit des pas. Les gardiens réveillent le prisonnier, puis le préparent. C'est assez long, car il lui manque une jambe. Il faut donc lui mettre sa prothèse. Il n'a sûrement pas dormi. Peut-être a-t-il somnolé, peut-être pas. Ensuite, il faut faire le chemin inverse. Personne n'a décroché un mot. Ce silence est assourdissant. Il écrase tout le monde. Le cortège suit le prisonnier jusqu'à l'avant-dernière pièce. Le prisonnier, Hamida Djandoubi, arrive près d'une table et s'assoit. Un gardien lui met dans la bouche une cigarette bouffiltre. Puis il se plaint que ses menottes sont trop serrées. Le gardien lui enlève les menottes. Le bourreau lui dit alors « Vous voyez, vous êtes libre ?» Le prisonnier termine sa cigarette. On lui en donne une autre. À cet instant précis, Hamida Djandoubi comprend que cette deuxième durera le temps qui lui reste à vivre. Son visage change. Il est blême. Un autre gardien lui verse un verre de rhum. Il boit, lentement. Il appelle ses avocats, échange quelques mots, remet un papier à l'un, puis lui demande de le déchirer, puis se ravise. L'avocat ramasse alors le papier déchiré. Il lui reste quelques gorgées de vie. Il appelle l'imam. Ils échangent quelques mots en arabe. Puis il demande une gauloise ou une gitane. Cela fait plus de 20 minutes qu'on est là. Tout le monde s'impatiente. Le bourreau dit « On a été bienveillants, humains, mais là il faut en finir. » « Ce sera ma dernière, » supplie Djandoubi. Elle lui sera refusée. Il boit la dernière gorgée de rhum et tend son verre vide au gardien. L'assistant du bourreau sort une paire de ciseaux, coupe le haut de la chemise. Le bourreau fait signe que ce n'est pas suffisant. Alors, l'assistant fait 2 grandes coupes dans le dos. Pendant ce temps, le bourreau lui a lié les mains à l'aide d'une cordelette. On lève le condamné. Une porte s'ouvre et on voit s'élever la guillotine. Les gardiens poussent le condamné vers la machine, l'allongent sur la table et dans quasiment la même seconde, la lame tombe. C'est fini. Le bourreau, Marcel Chevalier, vient d'actionner la guillotine pour la dernière fois de l'histoire de France.
Podcast Story.
La veille au matin, Marcel Chevalier, la cinquantaine grisonnante, visage rond et massif, au teint rougeau, sort de son vieil appartement parisien. Les épaules enfoncées dans son vieux pardessus, il ouvre la porte du bar-tabac du coin. Il fait son loto, boit un café et, sans dire un mot, il pose une pièce sur le comptoir et s'en va prendre le train pour aller travailler. Une dernière fois. À l'autre bout de la France. Et guillotiner un assassin. D'ailleurs, pour cette dernière exécution, comme pour l'avant-dernière, son assistant est son propre fils. Il a prévu de le former au métier de bourreau, d'exécuteur des hautes œuvres, comme on disait. Évidemment, l'abolition de la peine de mort mettra à mal ses plans de transmission filiale. En effet, en France, le 9 octobre 1981, la peine de mort est abolie. Avec elle, le dernier bourreau de France est mis à la retraite anticipée. Un départ qui met fin du même coup à une profession multiséculaire. Mais en restant terre à terre, comment a-t-on licencié Marcel Chevalier ? Était-il employé ? Avait-il un contrat de travail ? Eh bien non, rien de tout cela. Son seul interlocuteur était le directeur des affaires criminelles au ministère de la Justice. Ce directeur ne le recevait que très rarement, et soit le matin tôt, soit le soir tard, car ces entrevues devaient rester les plus discrètes possibles et surtout, personne parmi le personnel du ministère ne voulait croiser le bourreau. Les bourreaux ont toujours suscité des sentiments négatifs. Au ministère, on ne l'appelait pas « bourreau », mais « exécuteur national des arrêts criminels ». Cela fait plus moderne et plus républicain. Marcel Chevalier était le seul en France à pouvoir accomplir l'acte d'ôter la vie. Lui et personne d'autre. Pour ce travail unique, il était payé 3000 francs par mois, environ 1150 euros si on tient compte de l'inflation. Mais à chaque exécution, c'est lui, Marcel, qui devait prendre sur son pécule pour payer ses assistants. Il n'avait pas vraiment de contrat de travail. Personne n'a jamais vraiment su quels liens juridiques officiels l'État avait avec lui. Quelque part, Marcel Chevalier a été le premier auto-entrepreneur de France. Pour sa mise à la retraite forcée, le cabinet de Robert Badinter ne voulait rien lui verser, estimant qu'on lui faisait un honneur en lui retirant cette tâche inhumaine. Toutefois, il a été décidé de lui remettre l'équivalent d'un an de salaire pour solde de tout compte. Mais qui était vraiment Marcel Chevalier ? Un Français comme les autres, tellement comme les autres qu'excepté son deuxième emploi de bourreau, sa vie n'a été qu'un long fleuve tranquille. Fils d'ouvrier parisien, Marcel a une enfance des plus banales. Il va à l'école où il est un élève moyen. Plutôt que de jouer avec ses camarades dans les rues de Paris, le petit Marcel passe beaucoup de temps dans sa chambre à concevoir des maquettes avec des objets qu'il ramasse ici et là sur le trajet de l'école. Voyant cette passion pour les collages et les mécanismes miniatures, ses parents le sortent rapidement de l'école et l'orientent vers une formation d'imprimeur. La bonne idée. 3 ans plus tard, Marcel Chevalier, imprimeur typographe, est élu meilleur ouvrier de France. Sa destinée paraît toute tracée. Et pourtant, quelques années et quelques millions de caractères typographiques plus tard, en buvant un verre avec un collègue de travail au café du coin, Marcel fait la rencontre de Marcel Obrecht, son homonyme féminin. Même si aucune archive ne stipule ce détail, on imagine aisément que cela a dû faire partie de leur conversation d'approche. Marcel Obrecht n'est autre que la fille de Georges-Émile Obrecht, demi-frère de l'exécuteur André Obrecht et parente des bourreaux Anatole Debler et Jules-Henri Desfourneaux. Nous y voilà. Le destin de Marcel Chevalier bascule. Il se marie l'année suivante et entre ainsi dans la dynastie des bourreaux de France. Car oui, le métier de bourreau a toujours été une histoire de famille. Pendant des siècles, les bourreaux ont été chargés d'exécuter les condamnés et, tranchant des têtes de père en fils, ont créé de véritables dynasties. Jouenne, Sanson ou Desfourneaux. C'est par effet de contagion que le statut de bourreau devient infamant et qu'il est rejeté. Les exécuteurs sont de mauvaise fréquentation, leur foyer se situe bien souvent en bordure des villes et à partir du XVe siècle, ils sont tenus de porter en permanence une livrée explicite de couleurs vives qui permet de les reconnaître et d'éviter de se mélanger à eux. Ce sont ces difficultés à se mêler à la population qui aboutissent, bien malgré eux, à la création de véritables dynasties d'exécuteurs. Tant bien que mal, le bourreau tente de mener une existence familiale des plus normales. Il se marie. Il a des enfants qu'il éduque du mieux qu'il le peut. Mais les fils et les filles d'exécuteurs, marginalisés par les préjugés qui pèsent sur la profession de leur père, ne parviennent que rarement à trouver un conjoint en dehors des familles de la corporation. Qui voudrait du fils du bourreau comme gendre ? Personne d'autre qu'un autre bourreau. La charge de l'infamie qui pèse sur le père se transmet ainsi à ses enfants, à leur tour frappés d'ostracisme. Des dynasties de bourreaux se créent donc, plus spécifiquement dans les villes du nord de la Loire, en Normandie ou en Alsace. Dans le sud, les bourreaux sont plus souvent des condamnés à mort auxquels on accorde une grâce, à condition d'accepter la fonction d'exécuteur. Marcel Chevalier a-t-il fait exception à la règle ? Voici l'arbre généalogique des bourreaux de France concernant la période de la Révolution française, permettant un lien entre les dynasties Samson et des Fourneaux. En véritable Kardashian, la famille star de la profession reste les Samson. Louis XVI, Marie-Antoinette, Robespierre, Danton, Lavoisier, Charlotte Corday, toutes ces têtes ont été tranchées sous la lame d'un Samson. C'est l'arrière-petit-fils de Charles-Louis Samson, Charles-Henri, qui est chargé de décapiter à tour de bras les têtes couronnées, puis celles des révolutionnaires et quelques autres au passage. Au cours de la période révolutionnaire, il procédera à 2498 exécutions. Trois autres générations de Samson perpétueront la tradition familiale. Plus tard, le bourreau Anatole Deblaire, qui officie à la fin du XIXe siècle et au début du XXe, après avoir succédé à son père et à son grand-père, a comme successeur Jules-Henri des Fourneaux, puis André Obrecht et enfin Marcel Chevalier. Dans les ex-colonies aussi, on travaille en famille. Fernand Meissonnier, pied-noir chaleureux de 76 ans, ancien exécuteur adjoint en chef des arrêts criminels en Algérie, officier pour le compte de la France. Fernand Meissonnier a succédé à son père Maurice, exécuteur en chef des arrêts criminels pour l'Afrique du Nord, avec qui il a participé à quelques 200 exécutions. Le tableau de chasse de Marcel est bien moins impressionnant. Il n'a actionné le manche comme bourreau principal que deux fois dans toute sa carrière, mais une quarantaine de fois en tant qu'assistant. Effectivement, les années passent et les exécutions se font de plus en plus rares. Elles finissent par ne plus être publiques. La figure sensationnelle du bourreau perd dès lors de sa superbe, jusqu'à ce qu'en octobre 1981, l'abolition de la peine de mort soit promulguée et que la profession disparaisse pour de bon. Jusqu'au bout, la peine de mort aura été une affaire de famille. Mais comment passe-t-on d'imprimeur à bourreau ? En 1951, Marcel Chevalier postule pour un emploi d'exécuteur adjoint. Mais il n'est pas engagé. Les places sont chères, voire inaccessibles. Un parrainage avec lien de parenté est quasi obligatoire. Mais justement, tonton André est bourreau officiel et technicien commandant en chef de la guillotine. Qu'attend-il pour pistonner son neveu ? Pourquoi ne le soutient-il pas ? L'amour familial est un sentiment absolu. André veut briser la lignée afin que ses descendants puissent vivre une vie à peu près normale et que progressivement, on cesse d'associer le nom d'Obrecht à celui de bourreau. Mais en y réfléchissant bien, en prenant le jeune Marcel Chevalier à ses côtés puis en lui cédant la place, c'est certes un membre de la famille, mais plus le nom de Obrecht qui sera sur le devant de la scène. Avec le temps, les gens oublieront et ne feront plus le lien, pense-t-il. C'est ainsi qu'en 1958, André Obrecht joue de son influence pour faire obtenir la place souhaitée à son gendre et en quelques semaines, le jeune typographe se retrouve exécuteur adjoint. Marcel participe ainsi, de 1958 à 1976, à plus de 40 exécutions en tant qu'aide du bourreau. Même si ses interventions sont plus de l'ordre technique que psychologique, Marcel apprend à côtoyer la mort au quotidien, et la tâche n'est pas aisée. Il a pour mission principale de transporter, monter et démonter pièce par pièce la fameuse guillotine de ville en ville au gré des décisions des tribunaux. Mais pas que. Un matin brumeux de mars 1958, Marcel Chevalier s'apprête à vivre sa première journée de travail en tant qu'assistant exécuteur. Avec son oncle, ils attendent sur le quai d'une gare parisienne. À leur côté, deux grosses malles de transport contenant leur outil de travail. Des familles, des hommes d'affaires, des touristes patientent à leur côté sent palper l'odeur sinueuse de la mort qui embaume le quai. À l'arrivée du train, quelques badauds se proposent même d'aider les exécuteurs à monter à bord leur encombrant bagage. Pauvres d'eux, ils sont loin de se douter du contenu des malles qu'ils manipulent. Après un voyage des plus calmes, André et Marcel arrivent à destination. Pendant que le maître suit le directeur de la prison dans son bureau afin de signer quelques papiers, Marcel, assisté d'un gardien pour transporter ses malles, se dirige vers la salle d'exécution qui n'est autre qu'une pièce vide, sans fenêtre, située dans une annexe de l'établissement. Marcel ouvre les malles. À l'intérieur, chaque pièce est rangée avec minutie. Il a une heure pour tout mettre en place. Cette machine a été créée pour être facilement démontée et transportée sur les lieux d'une exécution. Boulon, ressort absorbeur de choc pour l'arrêt du mouton. Pas l'animal. Le mouton est la masse sur laquelle est fixée la lame. Roulements en laiton et pièces en acier sont montés en 40 minutes. La première mission de Marcel est terminée, mais pas son travail. Le maître exécuteur fait son apparition dans la salle. Il est suivi par deux gaillards tenant dans leurs bras le détenu qui vit ses derniers moments. Les mains et coudes liés dans le dos, les pieds et genoux entravés par une corde. Une autre corde relie ses poignets et ses pieds de façon à limiter son inclinaison sur l'avant. Ses cheveux sont coupés et sa nuque tondue. Le col de sa chemise est découpé. Celle-ci est ouverte et descendue sous ses épaules, dégageant ainsi le haut de son torse. Qu'a-t-il fait pour en arriver là? Marcel ne veut même pas se poser la question, et il a raison. Il n'est pas là pour ça. Des gens haut placés y ont réfléchi pour lui. Concentre-toi sur ta tâche, Marcel. Concentre-toi. Se répète-t-il constamment. Marcel saisit le condamné vivement contre la bascule, ce qui le déséquilibre immédiatement sur l'avant. Grâce à la planche, il lui glisse la tête à travers la lunette. Il le maintient au niveau du torse, lui saisit les pieds et ajuste la tête pour une bonne présentation au couperet. La lunette se referme aussitôt et se verrouille. André actionne le manche en bois, le mouton tombe en un clac. La lame vient de faucher la nuque de l'homme. Le corps est décapité. La tête percute le fond de la bassine. C'est fini. Non ! Il faut maintenant se débarrasser des deux parties du corps. Marcel jette un œil sur le panier contenant la tête. Erreur de jeunesse. Une tête, tout juste tranchée, vit encore entre 5 et 20 secondes. Son sang se glace. Face à cet effroyable spectacle, il manque de perdre connaissance. Reprends-toi, Marcel, ce n'est pas le moment. Il faut toujours rester de marbre, toujours. Le regard inquisiteur de son supérieur le remet immédiatement dans le bain. Le système nerveux de la caboche ayant livré ses derniers efforts, il s'en saisit, la recouvre d'un sac en toile de jute et la dépose dans un panier prévu à cet effet. Puis c'est au tour du corps sans vie d'être entouré d'un linceul bas de gamme pour être disposé dans une caisse en bois qui sera brûlée quelques heures plus tard. Paix à son âme. Le travail de Marcel est terminé. Au suivant. Une quarantaine d'exécutions plus tard, en 1976, Marcel Chevalier succède à Obrecht comme exécuteur en chef après le départ à la retraite de celui-ci. La routine, me direz-vous. Mais jusqu'ici, l'assistant exécuteur n'avait encore jamais actionné le manche. Et même si le geste paraît anodin, c'est ce dernier qui fait passer de vie à trépas. Et psychologiquement, ce n'est pas rien. Certes, le sort du condamné a déjà été scellé par de hautes instances, mais le sale boulot est au bout de sa main. Et le dernier visage que verra le prisonnier est le sien. Peu importe. Depuis le temps, il est rodé, Marcel, et c'est en qualité de bourreau en chef que notre ancien typographe procède à la décapitation de Jérôme Carin à la prison de Douai le 23 juin 1977 et de Hamida Djandoubi à la prison des Baumettes à Marseille le 10 septembre de la même année. Tradition oblige, lors de ces deux exécutions, Chevalier embauche son fils Éric en vue de le former à une éventuelle succession. L'avenir semble prometteur. Le gouvernement de l'époque leur fournit même un véhicule pour transporter la guillotine. Seulement voilà, le 18 septembre 1981, sous François Mitterrand, l'abolition de la peine de mort par Robert Badinter met fin à son destin de bourreau. Éric se retrouve au chômage avant même de pouvoir actionner le manche. Aujourd'hui, il exécute aussi des hautes œuvres, mais financières, en tant que banquier. Le lendemain, son père est convoqué au ministère de la Justice pour lui signifier son licenciement, en quelque sorte. C'est la fin d'un métier. Marcel a vécu une fin de vie paisible jusqu'au 8 octobre 2008, date à laquelle il décède à l'hôpital de Vendôme. Il est enterré dans la plus grande discrétion, sans représentant de l'État, sans journaliste et surtout sans bourreau.
Podcast Story. On a tous une histoire à écouter.